Bonsoir mes frères et sœurs, qu'il fait bon d'être dans la maison du Seigneur. Alors nous allons lire dans Marc, premièrement une lecture, des versets simples qui introduisent cette soirée. Marc chapitre 13, verset 23, un verset qui nous rappelle que tout ce dont nous avions besoin de savoir nous a été dit. Des fois on demande à Dieu, tiens, tu aurais pu m'informer sur tel ou tel sujet. Alors regardez bien ce verset, Marc chapitre 13, verset 23. Je vous encourage pour votre culte personnel à noter ces versets. Dans beaucoup d'églises, la foi est légère et superficielle parce que les gens ne permettent pas au Saint-Esprit de leur rappeler les choses. Tout à l'heure, nous voyions ce verset quand Jésus dit « Le Saint-Esprit vous enseignera et vous rappellera ». La meilleure façon pour que le Saint-Esprit nous rappelle ce qui nous a été enseigné, eh bien, c'est peut-être de le noter, comme je vous encourage à le faire pour votre culte, peut-être demain, jeudi, vendredi. Ainsi, vous apprendrez beaucoup de choses. Marc chapitre 13, verset 23. « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Et bien sûr, c'est signé Jésus-Christ. Au verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous. » Veillez. Je répète, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Tous, ça veut dire pas les chrétiens qui étaient à l'époque de Jésus. C'est tous les chrétiens de tous les siècles. Et à nous, bien entendu. Deuxième lecture, dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, il y a une prophétie, juste après, que le Seigneur nous a enseigné que le ciel et la terre passeraient, mais que ses paroles ne passeraient pas. C'est merveilleux cette parole, non? Luc 21, 34. Regardez bien cette prophétie et cette exhortation suite à cette prophétie. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra, donc vous voyez, c'est une prophétie, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc tout un tas d'exhortations. Voyez, dans d'autres textes, il est prophétisé qu'il y aura des famines, mais voyez, dans certains endroits de la terre, quand Jésus reviendra, eh bien, il y aura des excès, sur les excès du manger, du boire. Voyez comme quoi ça ne sera pas partout pareil. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Voilà la clé de ma prédication, que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Ce que Dieu veut, c'est que vous soyez fort. Fort, bien sûr, par sa grâce, fort par sa parole. C'est quelque chose que Dieu veut absolument. Et il n'y a qu'une solution, c'est de veiller et de prier. Lorsque nous nous réunissons, comme ce soir, quand vous ouvrez votre Bible, seul à la maison, que vous lisez, que vous méditez, vous êtes en train de veiller. Quand vous priez, c'est exactement la même chose, vous ne vous réalisez peut-être pas, mais vos lampes, pour reprendre la parabole, se remplissent d'huile. Quand quelqu'un prie, c'est ça, c'est comme s'il remplissait sa lampe d'huile, il ne le réalise pas, mais il prend des forces. C'est important, mes frères et sœurs, ça on le sait, que ces choses soit comprise avec la tête, c'est une chose, qu'elle soit saisie avec le cœur, c'est vraiment autre chose. Alors je nous pose la question, ces choses sont-elles dans notre tête ou ces choses sont-elles descendues dans notre cœur pour que nous puissions véritablement nous appliquer à avoir de la force? Est-ce que vous avez besoin de force? Ah oui, c'est important, le Seigneur le dit, mais soyez fortifiés, fortifiez-vous. Toutes ces exhortations, il nous a dit, mais veillez les uns sur les autres, aimez-vous les uns les autres, etc. La place du corps, l'importance du corps, nous prouve que nous avons besoin des uns des autres, de nous aimer les uns les autres, de veiller les uns sur les autres. Chacun pour soi, ce n'est pas biblique. Même si nous avons besoin de solitude et d'aimer nous retrouver seuls chez soi, c'est archi important, il n'empêche qu'il n'est pas dit prier chacun pour soi. Il est dit prier les uns pour les autres. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses, d'autant plus c'est une prophétie, c'est un filet qui vient sur la surface de toute la terre. Pour moi, ce filet, il existe déjà. Beaucoup de chrétiens se font piéger par plein de choses qui sont là. Les gens ne le réalisent peut-être même pas. On parle des fois de la toile d'Internet en parlant de filet, mais je ne sais pas si c'est bien juste, justement. combien de gens se font piéger par les choses de la vie, par les soucis de la vie. Mes frères et sœurs, les soucis, déposez-les au pied du Seigneur. Tous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que Jésus, c'est Jésus qui parle. Les soucis de la vie peuvent nous faire tomber dans le filet. Dieu veut que vous soyez fort. Pas de cette force psychique, pas de cette force intellectuelle, pas de cette force de caractère. Il y a des gens qui se disent optimistes, moi je suis optimiste, je ne m'ébranlerai jamais. Le Seigneur ne parle pas de cette force-là. Il parle d'une force que Dieu donne lorsque le Saint-Esprit vient de plus en plus en nous. D'ailleurs, Paul l'a dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que parfois nous en manquons. Oui, est-ce que parfois nous manquons de force, de sagesse ? Une personne me disait l'autre jour, je me suis mis à demander de la sagesse à Dieu. Eh bien, j'ai dit, mais c'est bien, ça fait combien que vous êtes converti ? Presque 40 ans. Eh bien, j'ai dit, c'est bien de commencer. Est-ce qu'on peut demander de la sagesse ? Est-ce que c'est stipulé de demander de la sagesse ? Qu'est-ce qu'on peut demander encore ? De l'intelligence, du bon sens, du discernement. Demandons-les ces choses. Elles contribuent à ce que nous ayons des forces, parce que la vie est faite de grandes souffrances. L'autre jour, je vous ai parlé du psaume 88, qui n'a certainement jamais été utilisé dans une église, tellement il est triste et tellement il finit dans la tristesse, parce qu'il y a des épreuves qui durent. Il y a des épreuves qui sont longues. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a des épreuves, on a l'impression qu'elles se terminent pas. Pour vous dire que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que le psaume 88 n'avait rien à faire dans la Bible, pour vous dire si cette personne avait compris l'inspiration des Écritures, tellement ce psaume est triste, tellement ce psaume est rempli de lamentations, et il ne finit même pas par une note d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il y a des situations qui semblent durer des années et des années. Alors le premier texte que je voulais partager avec vous pour comprendre ce que nous venons de lire, c'est dans le livre de 1 Samuel. Vous connaissez ce qui s'est passé dans 1 Samuel ? Dieu a besoin d'un homme. Il a besoin d'un homme et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a besoin d'hommes, de diaconesses, de couples pastoraux, de couples d'anciens. Est-ce que vous croyez que lorsque Jésus va revenir, il ne faudrait pas que dans toutes les églises, il y ait des anciens et des pasteurs qui dirigent bien les églises ? Dieu avait besoin d'un homme. Pour cela, hein, il va utiliser de la souffrance. C'est terrible ça. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre que pour faire certaines choses, Dieu permet de la souffrance ? Oui ou non ? Dans le premier livre de Samuel, il y a une situation qui est présentée. C'est quelque chose de terrible, ça. On va lire le verset qui nous intéresse pour montrer que la force, elle peut venir. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 5. Il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Vous y êtes ? Regardez le contexte, c'est quand même une preuve ça. Dieu a rendu cette femme stérile. Pourtant c'était une femme sérieuse, pieuse. Et c'est pas la première fois qu'on voit une femme pieuse subir cette épreuve-là. C'est une femme qui est dans la souffrance. Elle est frémée. Et Dieu le permet. C'est pas la désobéissance, c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile, et toutes les années, c'est au verset 3, mais là, toutes les années, il en était ainsi. Donc, ce texte se présente avec une situation qui dure depuis des années. Pourtant, cette femme, voyez, elle était pieuse, elle allait à la maison du Seigneur. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait, ne mangeait pas. Vous avez vu, rien que ces trois versets résume la souffrance, il y en a d'autres, hein, résume la souffrance de Anne. C'est terrible quand dans la maison du Seigneur, il y a des gens qui nous irritent. Est-ce que ça peut arriver ? Est-ce que ça peut arriver ? Non mais sérieusement, est-ce que vous le voyez comme moi ? Vous le voyez comme moi ? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que Dieu permette des choses qui aggravent la souffrance. C'est pour ça que, lisez le psaume 88. Je ne sais pas pourquoi je me sens poussé à le dire, peut-être que quelqu'un a besoin de le lire pour que vous compreniez que des épreuves peuvent durer longtemps et que c'est normal. Dieu sait, Dieu contrôle. Alors vous connaissez le contexte. Son cœur était triste, etc. Verset 10, regardez bien, c'est important par rapport à la force, vous allez comprendre. et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel. Et elle versa des pleurs. Il y a des gens, quand ils sont dans l'amertume, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ils envoient tout balader. Et quand vous lisez bien les hommes de Dieu dans la Bible, que ce soit Asaph, que ce soit David, que ce soit Jérémie, qu'ils soient dans la fosse, qu'ils soient dans la caverne, qu'ils soient dans le désert, qu'ils soient dans la boue, dans la fange, etc., ils cherchent le Seigneur. Alors c'est vrai qu'il y a des situations, elles sont... Est-ce qu'il faut qu'elles durent des années? J'en sais rien. Mais en tous les cas, Dieu peut permettre qu'elles durent des années pour qu'au bon moment, on réagisse. Anne, elle s'est levée. Un jour, ça n'a pas été comme les autres. La souffrance était telle qu'elle a dit, bon, maintenant, ça suffit. Et l'amertume dans l'âme, non, elle n'a pas abandonné, elle a prié. Et elle a versé des pleurs. Oui, on peut verser des pleurs, ce n'est pas grave. Alors, au verset 13, elle prie, bon, il y a un petit résumé de la prière, mais enfin, c'est pas ça le plus important. Au verset 12, pardon, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alors, on a chanté tout à l'heure, « Mon âme en silence » se tient devant toi. J'ai beaucoup pensé à Anne pendant les chants, parce que ça résume, les cantiques résument vraiment le témoignage d'Anne. Anne parlait dans son cœur. Quand il est dit de veiller et de prier, vous comprenez bien que ça n'a rien à voir à la prière faite dans l'église. Bien sûr qu'il faut prier dans l'église. Mais quelqu'un peut ne jamais prier dans l'église à haute voix et avoir un moment de prière chez lui très sérieux. Vous comprenez bien. Parce que ne faisons pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Prier. Bien sûr que les églises doivent être des maisons de prière, mais nos corps sont le temple du Saint-Esprit, et chez nous, il est souhaitable que nous ayons un moment où nous aimons nous retrouver pour prier, seul avec Dieu, se tenir en silence, parce que c'est bien de le chanter, mais c'est quand même beaucoup mieux de le vivre. Anne, elle parle dans son cœur, elle ne fait que remuer les lèvres, elle est dans la souffrance, je peux vous dire qu'elle n'a pas de force. Il y a plusieurs façons de prier, voyez là, au verset 13, elle parle... dans son cœur. Vous parlez dans votre cœur au Seigneur? Vous lui parlez? Oui, croyez-moi, il entend tout. Au chapitre 2, regardez bien maintenant. Au chapitre 2, le temps a passé, elle est rentrée chez elle, il y a eu une approbation dans son cœur, puisqu'il nous est dit que, au verset 18, on va lire le verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus. Il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit l'a touché, Dieu l'a. Il y a une approbation divine. C'est beau quand on prie et qu'il y a une approbation dans notre cœur. Tout à l'heure, il y a un don spirituel qui nous rappelait que quand on crie vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. C'est la vérité. Au chapitre 2, il y a une autre forme de prière. Anne pria. Cette fois-ci, elle ne parle pas dans son cœur. Elle dit. Vous voyez comme quoi il y a plusieurs façons de prier. D'une façon intérieure, d'une façon extérieure. Là, elle dit, il y a tout un cantique, je ne sais pas si vous l'avez souvent lu, mais c'est un beau cantique qui correspond à la prophétie qu'on a lue dans Luc. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Vous voyez, ça change du chapitre premier. « Ma force a été relevée par l'Éternel. » Et c'est ce verset que je voulais que vous reteniez. Comment on peut passer d'une situation d'amertume, de pleurs, d'irritation, d'anorexie, de souffrance, etc., à une situation de réjouissance et de pouvoir dire « Ma force a été relevée par le Seigneur. » Alléluia. Quelle est belle cette parole. Vous voyez, il y a des situations qui durent. Et depuis des années, mais à un moment donné, il faut se lever. Au verset 1, quand elle se leva, bien sûr qu'elle se levait chaque fois qu'elle allait au temple, elle se levait. Mais là, il y a une détermination qui va plaire à Dieu, à tel point que quand même l'homme de Dieu va le traiter d'alcoolique, elle dit « Non, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Vous voyez, elle est là. Elle n'est pas dans le... C'est pas grave maintenant. Elle veut avoir affaire à Dieu. Ce que pensent les autres, elle s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'elle réalise qu'il y a un moment où dans la maison de Dieu, on peut obtenir la force que Dieu veut nous donner. Parce que si Jésus dit « Veillez et priez afin que vous ayez la force », vous avez la preuve par A plus B que Dieu veut que vous soyez fortifiés à tous égards. Cette femme, elle était vraiment dans une situation de souffrance. Vous savez, quand les autres vous irritent, se moquent de vous, parce que vous n'êtes pas béni selon le code de l'Église. Tiens, si tu es stérile, c'est que tu es maudite. Mais c'est vrai que quand vous lisez, regardez, je crois que c'est dans Deutéronome au chapitre 7, regardez. C'est peut-être bien de le lire. Vous savez, il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Hein. Deutéronome 7, verset 14. Péninal devait lui dire, mais t'as pas lu ce qu'a dit Moïse ? C'est dur quand les gens utilisent la parole pour vous faire du mal. Ça, c'est pas intelligent, bien sûr. Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Tu vois ? Regardez, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Verset 12. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les mettez en pratique. Hé, Anne, si t'es stérile, c'est que tu fais semblant d'obéir. On a vite fait de dire à des gens, t'es pas béni, il doit y avoir quelque chose. Vous savez, le Seigneur, il est souverain. Et le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, est plus important que la guérison. Et ça, quand on lit bien la Bible, on le voit. Que Dieu peut permettre des situations de souffrance. Pourquoi ? Parce que quand on souffre, on change. Bien sûr que nous, on n'aime pas souffrir, mais quand on souffre, on change. Et la naissance de Samuel s'est faite dans des années de souffrance. La souffrance, ça prépare les gens. Et si vous souffrez d'une situation, levez-vous comme Anne, mettez-vous devant le Seigneur. Ne regardez pas si des gens vous ont irrité, si quelqu'un ne vous comprend pas. Parce que là, au niveau du discernement, le pasteur, il aurait eu besoin d'en demander. Vous savez, c'est dur, vous êtes dans la maison du Seigneur, vous priez, le pasteur vous prend pour une ivrogne. Vous ne trouvez pas que c'est dur ? Non ? Comme quoi, les pasteurs, bon, Élie, il n'était pas au mieux de sa forme. De toute façon, là, quand on parle d'Élie, pas le prophète, le sacrificateur, il a vraiment laissé faire les choses. Vous savez, dans une église, quand on laisse faire les choses, on en perd la vue. C'est dommage. En tous les cas, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Je ne sais pas où vous en êtes, mais quand même, ce que l'on a chanté indique bien ce qu'il faut faire. Que par l'instant qui passe... Que l'instant qui passe par ta grâce me permette de m'approcher de toi. Est-ce que c'est vraiment des cantiques que vous vivez ? Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je ne sais pas, elle est restée longtemps. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Alors, est-ce que ça veut dire, voilà, si vous ne restez pas longtemps, vous ne serez pas béni ? Qu'est-ce que ça veut dire, rester longtemps dans la présence du Seigneur ? Ça veut dire qu'il faut jouer la montre ? Ça veut dire, bon, mais moi, combien de temps ? Ben là, elle est restée 2 heures. Ah, 2 heures, c'est écrit, non, mais tu me demandes 1 heure. Elle est restée 3 heures. Non, je ne pense pas que c'est comme ça. Je pense qu'on a besoin de chercher la présence de Dieu. Et que quand on cherche la présence de Dieu, qu'on réalise la présence de Dieu, ce n'est plus une question de temps, c'est une question de perception. Je suis dans la présence de Dieu. Je m'approche de Dieu pour mes besoins, c'est vrai. Je m'approche de Dieu parce que j'ai besoin de sa faveur, c'est vrai. Je m'approche de Dieu parce que mes enfants, je veux que Dieu les protège. Est-ce que c'est bien de demander à Jésus que le sang du Seigneur protège nos enfants ? Vous le faites ? Eh bien, faites-le, et continuez à le faire, et Dieu honore la foi. Et je suis sûr que bien des gens sont protégés grâce à l'Église, grâce à la prière des chrétiens. Ça, j'en suis sûr. Et au ciel, on va être heureux de voir combien la prière a profité à la nation, plus que ce qu'on imagine. Parce que je peux vous dire qu'une fois que l'Église sera enlevée, les gens vont se rendre compte que l'absence des chrétiens, eh bien, ça ne va pas les arranger, je peux vous le dire. Mais au-delà de cette affaire, il y a quand même la bénédiction de se retrouver dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait cette approbation intérieure. Et il y a quand même des exemples dans la Bible qui nous montrent comment notre force peut être relevée. Quand même, on le relit ce verset 2, premier. Anne pria et dit, parce que cette fois-ci on a besoin de savoir, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel. » Vous avez vu au verset 3, « Ne parlez plus avec tant de hauteur. » Je pense que c'est un message subliminal pour Mélina. « Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. » Vous le croyez, ça ? Il sait, c'est ça la toute-puissance. Dieu sait tout. Par lui sont pesées toutes les actions. Verset 6, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. » Il fait descendre ses jours des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Vous le croyez tout ça ? Il est tout puissant. Mais moi, ce que je voudrais que nous retenions, c'est cette prière qui a été dite et Dieu a voulu qu'elle soit dans la Bible parce qu'on en a besoin. Je vous ai tout annoncé d'avance, ma force a été relevée par l'Éternel. Mes frères et sœurs, nous pouvons revivre la même chose. Je ne sais pas où nous en sommes de la force, parce que notre force peut s'épuiser. Il y a des textes dans la Bible où on voit que même David a perdu la force, Jérémie a perdu la force. Vous savez, il y a des situations difficiles, il y a des moments où l'ennemi nous vole certaines choses, et il faut retrouver cette force. Un autre texte, comment comprendre, veiller et prier afin que vous ayez la force? Dans Ésaïe, un texte que j'aime beaucoup, parce que Dieu m'a parlé par ce texte il y a longtemps quand j'étais en mission, où je me posais beaucoup de questions par rapport à ma fatigue justement, ma fatigue physique et spirituelle, parce que je fais la différence entre les deux. C'est pas pareil la fatigue physique, la fatigue spirituelle, la fatigue du jour, quand on termine une journée qu'on est fatigué, c'est tout à fait sain, S-A-I-N, c'est tout à fait bien. Ésaïe 40, verset 27. Vous savez que dans la parole de Dieu, Dieu pose souvent des questions. Je suis en train de les noter, toutes les questions qu'il y a dans la Bible. Je peux vous dire qu'il y en a des centaines et des centaines. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Dans ce chapitre, il y a 18 questions, dans le chapitre 40. Mais on ne peut pas sonder son intelligence. L'autre jour, vous savez, j'étais en train de prier, je regardais le ciel. Vous allez me dire que je ne vais pas bien. Et le ciel est bleu. D'accord? Sur toutes les autres planètes, de quelle couleur il est le ciel? Sur toutes les autres planètes? Noir. Et sur la Terre, il est bleu. Alors j'ai tapé sur Internet, pourquoi le ciel est bleu? Et je suis tombé sur des sites d'astronomie qui indiquent comment le soleil, par les ondes, envoie, et la rapidité des ondes qui est différente suivant la lumière, enfin c'est un truc de fou, on ne peut sonder son intelligence. Mais moi, vous ne trouvez pas que Dieu ait fait un ciel bleu, c'est bien, mais vous ferez pareil. On ne peut même pas sonder ces choses, parce qu'après tout, le ciel devrait être noir. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Bon, non mais enfin, tout ça pour vous dire que le Seigneur, il a fait que des choses merveilleuses. Vous le croyez, mes frères et sœurs? Vous tapez, pourquoi le ciel est bleu, et vous verrez. Bon, ça c'est pour le petit détail, mais c'est pour vous dire que Dieu est merveilleux. En tous les cas, une chose est sûre, quand Dieu dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais je prie, mais mes forces sont, je suis toujours fatigué. Il n'est pas dit ceux qui prient, il est dit ceux qui se confient en l'Éternel. Et je voudrais que nous soyons sérieux avec la parole. Chaque mot a été pesé, Jésus nous a tout annoncé à l'avance. Tout ce qu'on a besoin de savoir pour être fort est contenu dans le Saint-Livre. Et il y a des gens qui ont le toupet parce que moi je lui fais ça. Je prie, mais moi mes forces elles ne sont pas beaucoup renouvelées. Et le Saint-Esprit m'a repris, il m'a dit, mais je n'ai pas écrit ceux qui prient, ceux qui se confient. Parce qu'on peut prier Dieu d'une manière religieuse, hypocrite, routinière, superstitieuse, tout ce que vous voudrez. Et ne pas se confier en Dieu. Mes frères et sœurs, si vous croyez que Dieu vous entend, si vous croyez qu'il entend tout, qu'il sait tout, qu'il vous aime et qu'il sait ce qu'il fait avec vous, vous vous confierez en lui. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Alléluia. Et il faut être fort, pas pour en mettre plein la vie aux autres, mais il faut être fort parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est le seul moyen d'être prêt. Veillez et priez afin que vous ayez la force. Plein de chrétiens n'échapperont pas. Plein de chrétiens seront dans le désarroi. Plein de chrétiens ne s'intéressent pas à ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce qu'ils s'imaginent qu'aller à l'église, ça suffit. Non, il y a une attitude. Vous voyez, Anne, quand même, c'est merveilleux. Parce que même dans la souffrance, même dans des années d'interrogation, pourquoi je suis stérile? Eh bien, peut-être quand même elle priait, parce qu'on le voit, elle priait pour être utile. Est-ce que vous auriez préféré être la maman de les enfants de Pénina ou les enfants de Anne? Avec le recul, vous voyez, avec le recul. Est-ce que c'était bien qu'elle ait vécu ça, cette femme? Vous avez vu l'homme qu'elle a enfanté? et vous ne savez pas les situations que vous allez enfanter, créer, entreprendre. Si vous dites au Seigneur, mais moi aussi je veux que ma force soit relevée, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais bien sûr, c'est pas la volonté que vous restiez faible. On peut être très faible et dépendre de Dieu. Paul disait, c'est dans la faiblesse que je me plais, parce que quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. On voit bien que c'est pas une question de force physique, c'est une question de force spirituelle. Dépendre complètement de Dieu. Paul a été racénéré et fortifié par quatre mots. Alors qu'il était dans une souffrance, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Est-ce que ces quatre mots suffiraient à fortifier quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un pourrait dire dans son cœur, mais Seigneur, ta grâce, elle me suffit à moi aussi? C'est ça, ceux qui se confient. La confiance, c'est quelque chose, tout le temps, il n'y a jamais dit heureux les gens qui prient. Par contre, le nombre de fois où il est dit heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Quand vous vous confiez en Dieu, c'est quelque chose qui produit une bénédiction. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. La confiance, c'est quelque chose qui attire Dieu. Quand vous lui faites confiance, il le voit. Si quelqu'un lui dit, Seigneur, je te fais confiance, bon, parce qu'il a dit qu'il fallait te faire confiance, alors je te fais confiance. Non, c'est pas tout à fait ça. Quand vous connaissez Dieu, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. C'est pour ça qu'il est écrit dans le psaume 9, je crois, ou 4, on va lire. J'y tiens, parce que c'est un psaume, moi, qui m'a fait du bien. Quand j'ai fait l'AVC, je crois que c'est le premier psaume que j'ai lu. Mais je l'ai lu, j'avais envie de le lire, parce qu'il me revenait à l'esprit. C'est le psaume... Alors, oui, psaume 9, pardon, verset 11. Regardez ce verset, comment il est beau. Il faut bien le comprendre, ce verset. C'est un verset que vous devez apprendre. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Est-ce que vous me suivez? Quand vous connaissez Dieu, pas connaissez la parole, pas connaître une église, pas connaître la doctrine. Quand vous connaissez le Seigneur, vous ne pouvez pas ne pas lui faire confiance. Est-ce que vous comprenez? Il est digne de confiance. Vous savez, quand on voit des chrétiens, je le dis, ce que je vais dire, c'est presque dommage, mais je le dis quand même. Qu'un chrétien qui a 10 ans, 12 ans de vie d'église, je veux dire de conversion, non, pas de conversion, parce que s'il était converti, il ne serait pas là. Un chrétien qui a pris le baptême, qui est là, qui est chrétien de nom, qui au bout de 10 ans, 12 ans, est en train de dire, je ne sais pas si Dieu m'aime. Écoutez, pour moi, il y a un problème. Quand vous connaissez Dieu, vous savez qu'il vous aime. Vous le savez. Le Saint-Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous le savez. Vous ne pouvez pas ne pas le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est qu'il n'y a pas de régénération. C'est pas possible. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Alors demandons-lui de l'aide, afin que la force du Seigneur soit notre partage. C'est vraiment, vous le croyez, quand du temps de Néhémie. C'est pour ça que ce cœur, moi j'ai demandé qu'on ne le chante plus, c'est un verset biblique du temps de Néhémie, où il est dit, la joie de l'Éternel sera votre force. Moi j'ai demandé à mon honneur de chant, écoutez, évitez de le chanter, vous savez, la joie du Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui chantent ça, mais il y a un contexte, et c'est archi important de voir dans quel contexte ce verset a été écrit. Moi je serais d'accord qu'on le chante, à condition que presque on prenne le texte biblique, quand est-ce que ce verset a été écrit. Vous le lirez, c'est en Néhémie au chapitre 8, lisez le chapitre entier de Néhémie au chapitre 8, et vous allez voir qu'ils étaient en train d'obéir, et l'obéissance de cœur, pas l'obéissance légaliste ou laxiste, mais l'obéissance de cœur donne de la joie. Il y en a qu'un qui a dit amen. Je le redis parce que je le dis mal. L'obéissance de cœur produit vraiment la joie du Seigneur. Vous le croyez, frères et sœurs? Ah, mais c'est vrai. Et c'est pour ça qu'ils étaient en train d'obéir, ils étaient dans un cursus de réveil, ils se soumettaient à ce que Dieu leur demandait, et ils ont dit, mais la joie du Seigneur est notre forte. Tandis que nous, on fait chanter ça à des gens qui n'obéissent pas. Alors moi je suis bien, je sais très bien que les chrétiens qui connaissent Jésus-Christ, qui sont pardonnés, qui vivent dans la grâce, etc., sont dans la joie. S'il y a bien des gens qui sont dans la joie sur la terre, ce sont les chrétiens qui sont en communion avec Dieu. Il n'y a qu'eux qui peuvent être en communion, dans la joie. Mais mes frères et sœurs, la joie de l'Éternel, elle devient une force. Que son nom soit béni. Et c'est vrai. Mais si vous n'obéissez pas, ne jouons pas la comédie en chantant des méthodes, des cantiques Coué. Vous connaissez la méthode Coué? Ça c'est vrai, la joie viendra pas comme ça. Mais Seigneur, donne-moi un cœur qui t'obéisse. Je veux être intelligent. Je veux pas m'irriter parce qu'il y a beaucoup de gens à la place de Anne. Il y a longtemps qu'ils auraient euh,
qu'ils auraient dit, écoute, moi je reste à la maison, j'en ai marre, chaque fois que je vais à l'église, elle se moque de moi, elle m'irrite, quand tu me tournes le dos, elle se moque de moi, ça m'énerve, je supporte plus, ben, c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Est-ce qu'on a bien fait de persévérer? Il faut persévérer. Le Seigneur, il nous éprouve, le Seigneur, il ne s'amuse pas avec nous, le Seigneur, il ne joue pas. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, qui a le cancer, ne dites pas, mais pourquoi le Seigneur ne le guérit pas? Le ciel est rempli de gens qui ont été malades. Parce qu'avant de mourir, eh bien, ils ont demandé pardon à Dieu. Vous allez le voir, vous allez le vérifier. Ça. Quand on va être au ciel, peut-être ils n'auront pas de récompense parce qu'ils se sont convertis au dernier moment. Mais je suis sûr qu'au ciel, il y a des millions de gens qui seront sauvés parce qu'au dernier moment, ils ont eu peur. Seigneur, pardon, pardon. Et ils seront pardonnés. Oui ou non? Il y a des millions de gens comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens. Sur 100 personnes, je me demande combien ont marché avec Dieu toute leur vie, avec amour pour le Seigneur. Je ne sais pas combien il y en a. En tous les cas, une chose est sûre, ça vaut la peine de méditer et de s'arrêter sur la parole de Dieu et de dire, tiens, comment faire? Alors, on termine avec un verset parce que le retourne. Mais vous pouvez le faire avec une concordance. Vous n'avez plus besoin de moi. Ésaïe chapitre 30, ça rejoint ce qu'on a lu dans Ésaïe 40. Mais quand même, je le prends ce verset parce qu'il est fort ce verset. Parce qu'il indique vraiment bien l'état d'esprit de beaucoup de gens aujourd'hui. Regardez ce verset, Ésaïe 30, verset 15. Moi, c'est surtout la fin du verset qui me fait mal au cœur, mais c'est vraiment la vérité. Vous le connaissiez ce verset, je le cite souvent. Ésaïe 30, verset 15, mais je vous encourage à le méditer et à le faire descendre dans le cœur. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est Dieu qui parle. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Vous êtes d'accord? Tout à l'heure, on a chanté « Jésus, par ton sang précieux ». Comment c'est la troisième strophe? Jésus, vous voulez remettre, s'il vous plaît? Quand même, regardez quand même ce qu'on chante. Moi, je ne sais pas si. Alors, « Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité ». Est-ce que vous avez chanté ça? Est-ce que vous l'avez chanté? Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Est-ce que vous vous rendez compte ce qu'on chante? Non? Est-ce que vous réalisez la beauté de ces paroles? Est-ce que tout le monde peut le chanter, ça? Eh non! Est-ce que tous les chrétiens peuvent le chanter? Eh non! Non, mais ils devraient, oui. Mais combien de chrétiens ne peuvent pas le chanter? Ils ne sont même pas passés par la repentance et la conversion. Mais quand vous pouvez chanter ça, mais vous ne pouvez pas ne pas être dans le repos. C'est pour ça que le Dieu dit, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Comment un homme qui chante ça ne pourrait pas être dans le repos? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La confiance. La confiance, c'est quelque chose. Dieu, il vous voit là. Il sait si vous lui faites confiance ou si vous n'avez pas confiance. Mais si vous êtes dans la confiance, vous êtes dans le calme et Dieu vous accorde cette force. En plus, ce qu'il y a de dommage, c'est la suite. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ça fait pitié, ça. Et c'est pas que dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez quand Jésus pleure devant Jérusalem. Vraiment, il pleure parce que ça indique vraiment que son œuvre ne peut pas se faire. Quand Jésus pleure, il faut réaliser ce que ça veut dire. Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare parce qu'il voit bien que des milliers de gens meurent sans lui et vont en enfer. Et quand il pleure devant Jérusalem, il dit « Mais combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» L'image ne peut pas être la plus belle encore. Et il dit « Et vous ne l'avez pas voulu. » Mes frères et sœurs, les gens qui veulent ces choses, ils sont forts parce qu'ils ont confiance. Et s'ils perdent des forces parce qu'ils sont dans l'épreuve, comme ça a été le cas de Anne, ils restent dans la présence de Dieu. Mon âme en silence se tient devant toi. Et la force, elle est relevée. Gloire à Dieu. Veillez, priez, afin que vous ayez la force. Je ne sais pas où vous en êtes. Si vous l'avez perdue, eh bien, imitez Anne. Il est demandé d'imiter la foi de ceux qui ont fait des expériences. Eh bien, imitons la foi. Moi, je ne vous accablerai pas si vous étiez fatigué, irrité, anorexique, en colère, etc., dans l'amertume. Eh bien, ce que Dieu a fait avec Anne, laissez-moi vous le dire, il le fera avec vous. Parce que Dieu n'est pas injuste. Et si tout va bien, eh bien, gloire à Dieu. Si tout va bien, eh bien, redoublez de courage. Soyez un instrument de bénédiction. Et Seigneur, mais moi, je vais te faire confiance. Je ne vais pas te prier. Il y a déjà, ils prient dès qu'ils ont prié. Oh, Seigneur, ils ont peur. Ils n'ont pas confiance. De toute façon, la confiance, quand vous priez, vous avez confiance. Et quand vous arrêtez de prier, vous avez confiance. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas confiance quand on prie. On a confiance quand? Ben, tout le temps. Gloire à Dieu. Demandons au Seigneur son aide. Il le fera. Est-ce que Dieu a bien aidé Anne? Ouais, là, moi, je trouve qu'il a bien aidé. Eh bien, il vous aidera. Que son nom soit béni. Notre Père, nous sommes heureux chaque fois que nous méditons les Écritures. Oui, nous le croyons que tout ce que nous avions besoin de savoir, tu nous l'as annoncé d'avance. Et nous te sommes reconnaissants d'avoir permis que des hommes traduisent la Bible dans notre langue, afin qu'encore ce soir, dans ta maison, nous puissions veiller et prier, et te remercier surtout de ce que ces textes nous enseignent, comment être forts jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne veillent plus, tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui n'ont plus de force, afin qu'ils puissent retrouver une église où ils recevront tout à nouveau la nourriture qui les fortifiera et la communion qui leur redonnera cette force que toi seul es capable de donner à un homme. Seigneur, merci pour les prophéties, merci pour l'enseignement. Que ton nom soit béni pour cette soirée. Oui, nous te bénissons de ce que tu es notre berger et que tu restaures nos âmes. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.